Etur Jesus Christus.
Les Philippines en première ligne face aux ambitions chinoises dans la mer de Chine orientale. Le sommet tripartite hier, États-Unis-Philippines-Japon, a remis en lumière les tensions dans la région. Reportage à suivre auprès de pêcheurs philippins. La junte militaire birmane toujours plus en difficulté après la perte d'une ville à la frontière stratégique avec la Thaïlande. Annoncé hier, un groupe armé annonce une prochaine bataille décisive dans l'ouest du pays. Dans ce journal, direction également Londres, où le gouvernement britannique durcit les conditions dans sa délivrance des visas de travail pour les étrangers. Et puis nous irons également en Côte d'Ivoire, où a été inaugurée hier une ambassade d'Ukraine, Kiev qui tente de contrer diplomatiquement l'influence russe sur le continent africain.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, avant de développer tous ces titres, cette information de la salle de presse du Saint-Siège annonçant un nouveau voyage en Asie pour le pape François, un voyage apostolique officialisé qui se déroulera du 2 au 13 septembre prochain. Le Saint-Père est attendu dans 4 pays, l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour, des pays dans lesquels s'était notamment rendu le pape Jean-Paul II. Une visite à l'invitation des chefs d'État ainsi que des églises locales. Le programme de ce long voyage apostolique de François sera connu dans les prochaines semaines, mais vous pouvez retrouver tous les détails de ces étapes sur notre site vaticannews.va. Toujours dans l'actualité du pape, François a reçu ce matin les membres de la fondation papale qui effectue leur pèlerinage annuel à Rome, une fondation qui soutient divers projets éducatifs, caritatifs et apostoliques à travers le monde, en les invitant à toujours rayonner de la joie pascale et s'engager davantage au service des plus pauvres. Le Saint-Père leur a rappelé l'importance d'un tel engagement dans une époque, a-t-il dit, marquée par l'individualisme et l'indifférence. Toute attaque contre un avion, un navire ou les forces armées philippines en mer de Chine déclencherait la mise en œuvre de traités de défense mutuelle. C'est l'avertissement lancé hier soir par Joe Biden depuis la Maison-Blanche, avertissement à destination de Pékin lors du sommet trilatéral avec ses homologues japonais et philippins. À la Maison-Blanche, le président américain s'est donc emparé du sujet des tensions croissantes en mer de Chine méridionale. Ces derniers mois, les accidents se sont multipliés entre les navires chinois qui occupent le terrain et les philippins qui ont bien du mal à protéger leurs intérêts dans leur propre zone économique exclusive. Et ceux qui font les frais de cet affrontement géopolitique, ce sont les pêcheurs philippins. Notre envoyé spécial Jean Labruyère est allé à leur rencontre.
Dans le petit port de Masinloc, les prises du jour sont arrosées d'eau de mer pour garder un semblant de fraîcheur. Parmi les passants, Anthony jette un regard désapprobateur sur les poissons vendus à la criée.
Ici, les poissons sont trop petits. Nous, on préfère aller pêcher à Scarborough.
Avec son capitaine Efren, ils se rendent plusieurs fois par mois au récif de Scarborough, un atoll dans la zone économique exclusive philippine, mais où depuis 2012, Pékin fait sa loi.
C'est une zone avec beaucoup de bons poissons là-bas. Surtout la zone ouverte, celle qui est gardée par les Chinois. Mais on ne peut pas s'en approcher. Ils nous empêchent de pêcher. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent de gigantesques projecteurs de lumière qu'ils braquent sur nous. Et cela diffuse tellement de chaleur que c'est insupportable. Ils ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que tu quittes la zone. Cela nous fait perdre beaucoup d'argent.
Ils se disent abandonnés et craignent que l'escalade vire à la frontière.
Nous avons beaucoup de gardes-côtes qui viennent, mais ils ne peuvent pas passer et aller dans cette zone. La Chine protège ses pêcheurs, mais pour nous, il n'y a pas de protection. La situation est dangereuse. On pourrait se retrouver en guerre.
Les Philippines et leurs alliés comptent augmenter les patrouilles pour répondre à la présence chinoise. Efren et Anthony, eux, n'ont pas l'intention d'abandonner leur terrain de pêche. Jean Labruyère, de retour de Masinloc pour Radio Vatican.
Et Pékin a fustigé ce vendredi États-Unis, Japon et Philippines et défendu ses actions légitimes en mer de Chine méridionale. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères critique une coopération trilatérale qui se fait, je cite, au détriment des intérêts des autres pays. La junte militaire birmane, toujours plus en difficulté après la perte d'une ville à la frontière stratégique avec la Thaïlande, annoncée hier. C'est aujourd'hui un groupe armé qui annonce une prochaine bataille décisive dans l'ouest du pays, Jean-Benoît Harel.
Oui, Olivier, c'est dans la capitale de l'état de Rakhine, à l'ouest du pays, que l'armée d'Arakan s'apprête à mener son offensive contre l'armée birmane. Les rebelles encerclent la ville de Sitwe et ont demandé aux civils de quitter les lieux et de se réfugier dans les zones que les rebelles contrôlent. De l'autre côté de la Birmanie, à l'est, le scénario est identique. Les troupes de la junte ont abandonné abandonné la ville de Miawadi, pourtant stratégique pour le commerce avec la Thaïlande. Les combattants rebelles de l'Union nationale Karen menaient depuis une semaine une opération pour prendre possession de la ville. Depuis 4 mois, la junte birmane fait face à la plus grande menace depuis son retour au pouvoir en 2021 et tente de réagir sans grand succès. Elle a décrété la conscription obligatoire début février pour tous les hommes âgés de 18 à 35 ans. Résultat, de nombreux jeunes birmans tentent de fuir le pays pour éviter cet enrôlement forcé dans une armée impopulaire. Les soldats eux-mêmes désertent, nombreux d'entre eux se réfugient vers le Bangladesh par exemple, malgré les peines de prison encourues. Enfin, la panique pousse également les chefs militaires à mener des frappes aériennes sur les villages civils, notamment dans l'état de Rakhine, ce qui a provoqué l'inquiétude des Nations Unies.
Jean-Benoît Harel. Une autre guerre est bien sûr celle qui continue de ravager la Terre Sainte et la pression qui continue aussi sur Israël. Hier, plus de 250 organisations humanitaires ou de défense des droits de l'homme ont rejoint une lettre ouverte qui demande de cesser de livrer des armes à l'État hébreu. Une lettre qui avait été lancée au mois de janvier dernier par 16 organisations. Parmi les signataires, on note Amnesty International, Médecins du Monde ou encore Caritas Internationalis, les ONG qui dénoncent également les prises d'otages et les attaques aveugles des groupes palestiniens armés qui constituent, selon elles, des violations du droit humanitaire international et qui doivent cesser immédiatement. Israël qui attend une riposte de l'Iran après l'attaque la semaine passée du consulat iranien à Damas qui avait tué 16 personnes. Téhéran a promis une riposte. Les alliés occidentaux d'Israël appellent à la retenue. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken demande à ses homologues chinois, turcs et saoudiens de dissuader Téhéran de toute attaque. Et puis, alors que cette guerre a des répercussions au-delà du territoire de Gaza, Paris dissuade aujourd'hui ses ressortissants, les ressortissants français, de se rendre en ce moment en Israël, en Iran ou encore au Liban. Le Royaume-Uni durcit ses conditions pour l'octroi des visas pour les migrants. Londres a augmenté de près de 50% le prix des visas de séjour de proches, de travailleurs immigrés ou d'étudiants en doctorat. Recouvrer le contrôle des frontières et une immigration choisie avaient été des thèmes majeurs de la campagne pour le Brexit. Cependant, des aménagements ont été introduits pour faciliter le recrutement d'étrangers dans des secteurs en tension comme la santé ou l'agriculture. À Londres, Jean Jaffré.
Lorsqu'il est entré au 10 Downing Street, le Premier ministre Rishi Sunak a solennellement fait 5 promesses, notamment une baisse drastique de l'immigration. Mais depuis le Brexit, il y a plus de 3 ans, le solde migratoire s'est accru malgré le départ de centaines de milliers de ressortissants de l'Union européenne. Robert Jenrick, ex-secrétaire d'État à l'intérieur, assurait que ces emplois seraient occupés par des travailleurs britanniques. Les nouveaux arrivants viennent majoritairement de l'Inde, du Pakistan, de la Chine et du Nigeria. 39% viennent étudier, 33% travailler et 9% pour des motifs humanitaires. Pour faire venir votre partenaire ou des membres de votre famille, vous devez avoir un permis de travail de plus de 6 mois. En plus de la condition d'un revenu de 34 000 euros environ par an, il est exigé de payer un forfait de prise en charge santé d'un montant de 1 200 euros par personne et par an. La CBI, la plus importante fédération patronale, et le premier syndicat des infirmières et infirmiers ont critiqué ces mesures qui aggravent la crise de recrutement. En outre, celles-ci ont pour effet d'augmenter la masse salariale des petites entreprises et notamment dans le secteur de la restauration. Mais à 9 mois au plus tard des législatives, les conservateurs au pouvoir depuis 14 ans sont largement donnés perdants face aux travaillistes d'après les sondages. Long, Jean-Jaffré, Radio Vatican.
Alors qu'une guerre l'oppose à la Russie depuis 2 ans, l'Ukraine continue son offensive diplomatique en Afrique pour contrer l'influence russe très présente sur le continent. Hier, à Abidjan, une nouvelle ambassade ukrainienne était inaugurée. La correspondance de Mohamed Lamine.
Sisa Kokoudi, Riviera Golf, à près d'un kilomètre de l'ambassade russe, la nouvelle chancellerie de l'Ukraine en Côte d'Ivoire a été inaugurée ce jeudi à Abidjan par l'envoyé spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Maxime Soupe. C'était en présence du ministre délégué des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire et de plusieurs diplomates occidentaux, dont les ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne. L'ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire est inaugurée un peu moins d'1 an après l'annonce du pays d'étendre sa présence diplomatique sur le continent africain, a déclaré Maxime Soupe, ajoutant que cela s'explique avant tout par la volonté de l'Ukraine d'intensifier sa coopération globale avec les partenaires ivoiriens. « Le moment est venu de booster nos relations bilatérales et de rattraper le temps perdu », a déclaré Yuri Pivarov, nouvel ambassadeur de l'Ukraine en Côte d'Ivoire, précisant qu'il faut pousser le dialogue politique entre l'Ukraine et la Côte d'Ivoire à un niveau plus élevé. Le ministre délégué de la Côte d'Ivoire a réitéré la fidélité de son pays au principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout en souhaitant la fin rapide de la guerre. Après la RDC, le Rwanda et la Côte d'Ivoire, de nouvelles ambassades ukrainiennes vont ouvrir au Ghana, au Mozambique ou au Botswana. Abidjan, Mohamed Lamine, Radio Vatican.
Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité tout au long de cette semaine. À 18h, vous serez entre de bonnes mains, celle de Delphine Allaire. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente après-midi.